Un univers trop petit est un univers trop jeune pour avoir eu le temps de synthétiser les noyaux essentiels à la vie. Autrement dit, si l'univers est aussi grand, ce n'est pas, dans le fond, pour nous y immerger comme des stupides animaux. Il est grand parce que s'il n'était pas aussi grand, nous ne serions pas là. Vous voyez ? Parce que n'étant pas aussi grand, il ne serait pas aussi vieux. Et s'il n'était pas aussi vieux, il n'aurait pas eu le temps de synthétiser du carbone. Maintenant, pourquoi y a-t-il donc du carbone ? Il y a du carbone parce qu'il y a des étoiles. L'univers ici est trop froid. À 300 000 ans, 3000 degrés. 3000 degrés, ce n'est pas suffisant pour pousser les noyaux légers à se mettre ensemble pour faire des noyaux lourds comme le carbone. L'univers est donc trop froid pour faire des noyaux lourds. Mais comment se fait-il alors que le carbone est apparu ? Et le fer ? Et l'oxygène ? Eh bien parce que, progressivement, la matière, l'hydrogène et l'hélium, qui sont dispersés dans l'univers, par la gravitation vont commencer à se rassembler. La gravitation attire toutes les masses. Et les nuages d'hélium et d'hydrogène vont se rassembler progressivement. Et en se rassemblant, les particules vont commencer à frotter les unes contre les autres. Et frotter, ça veut dire que la température va remonter localement. Il y a des frottements locaux, de plus en plus forts, et grâce à la gravitation, les particules se frottent, donc la température remonte, et localement, des fournaises réapparaissent. Et ces fournaises, ce sont les étoiles, formant des galaxies. Autrement dit, s'il n'y avait pas des étoiles, nous ne serions pas là, parce que c'est dans les étoiles que progressivement tous ces noyaux d'hélium qui, de nouveau, acquièrent beaucoup d'énergie à cause de la température, vont être lancés les uns contre les autres, vont coller avec les forces nucléaires et vont faire du carbone, de l'oxygène, du néon, du fer, etc. Ok ? Autrement dit, s'il n'y avait pas de galaxies et d'étoiles, dans cet univers aussi grand, nous ne serions pas là. Autrement dit, nous ne sommes pas une singularité perdue dans un univers trop grand pour nous, ou trop vieux. Il est vieux et grand, dans le fond, parce que ce sont des conditions. Il y a des conditions là importantes pour la vie. Et si la vie existe, plus exactement scientifiquement, si la vie existe, l'univers nécessairement, s'il est en expansion, doit être vieux et grand. Parce que si il était trop jeune, il n'y aurait pas de galaxies et d'étoiles, il n'y aurait donc pas de casserole pour concocter le carbone, le fer, le cuivre, l'oxygène, etc. Autrement dit, les caractéristiques profondes de l'histoire de l'univers sont très fortement liées à l'histoire de la vie et de l'homme. Je prends un exemple. Ici, l'expansion de l'univers fait qu'en 3 minutes, sont synthétisés les noyaux légers. Donc, entre une seconde et 180 secondes après le Big Bang, tous les noyaux légers sont formés. Bon, ça prend donc 3 minutes. Il faut savoir que les propriétés des forces nucléaires font que le neutron peut se désintégrer quand il est tout seul en 10 minutes. En 10 minutes, le neutron se décompose en protons plus électrons plus antineutrinos. Donc le neutron se décompose en 10 minutes s'il est tout seul. Si l'expansion de l'univers était telle que on attendait trop longtemps, vous voyez, si quelque chose se passait, vous voyez, qui dure plus longtemps que 3 minutes, au bout de 10 minutes, il n'y aurait plus de neutrons. Donc on ne pourrait plus synthétiser les éléments légers. Donc il se fait que les caractéristiques des forces nucléaires font que la désintégration du neutron prend 10 minutes, mais les caractéristiques de l'expansion de l'univers font que ici il y a une baisse de température pendant 3 minutes qui permet aux neutrons qui existent encore de se mettre ensemble pour faire les noyaux légers. Autrement dit, changer la moindre chose dans l'interaction gravitationnelle et donc dans l'expansion de l'univers, changer la moindre chose dans les forces nucléaires, vous interdisez de produire la vie. Tous les neutrons seraient désintégrés, il n'y aurait donc pas de noyaux légers, donc pas de noyaux lourds non plus. Alors, Il y a des choses extraordinaires dans cette histoire, si vous voulez. Le fait que l'univers aujourd'hui est très homogène et isotrope. J'ai dit, on voit dans toutes les directions la même densité, les mêmes propriétés de ce rayonnement, etc. Mais si on regarde la distribution des galaxies et la distribution de la matière, on a vraiment l'impression qu'on a saupoudré la matière de façon parfaitement homogène dans toutes les directions. Or ça, c'est étrange. Parce que pour un physicien, l'état le plus probable n'est pas celui-là. On pourrait dire, quelle est la probabilité de trouver toutes les chambres des étudiants de Philanthropos dans le même état de très bon rangement, le lit est fait, les livres sont bien rangés, etc. pour tout le monde. Alors bien sûr, Philanthropos, c'est l'élite, alors effectivement, tout le monde a bien rangé, etc. Bon. Mais si je faisais la même inspection chez mes étudiants en Namur, il y aurait des surprises, parce que probablement que la plupart des chambres ne sont pas nettoyées, ne sont pas rangées, le lit n'est pas fait. Donc la situation la plus probable, c'est pas celle d'un ordre parfait. Or, ce qui est très curieux dans l'univers, c'est que là, on pourrait dire, la répartition de la matière est extrêmement uniforme et isotrope, la même dans toutes les directions. Or, on montre aujourd'hui que si l'univers n'était pas aussi homogène et isotrope, les galaxies se formeraient très difficilement. Et se formant difficilement, il n'y aurait donc pas assez de lieux pour faire des noyaux lourds. Donc modifier les propriétés de l'univers à grande échelle risquerait immédiatement de provoquer des problèmes pour l'émergence des éléments lourds qui servent à la formation de la vie. Bon. Autre chose. Modifions, essayons, par exemple, imaginons de modifier les propriétés des forces ici, pour nous amuser. Par exemple, imaginez quelqu'un qui est aux commandes de l'univers et change la force de gravitation, par exemple. Alors vous pourriez dire, mais ça c'est amusant, ce serait d'ailleurs bien parce qu'on diminue la force de gravitation, à ce moment-là, oui, on commencerait à... comme sur la Lune. Hein, ça, ce serait extraordinaire. Mais ce ne serait pas si extraordinaire que ça, parce qu'en même temps que vous volez, les molécules de l'atmosphère, elles veulent aussi voler. Et elles veulent échapper, elles peuvent échapper facilement au champ gravitationnel. Donc très vite, vous sentiriez très léger, mais en même temps, vous tombez d'asphyxie, parce que la plupart des molécules sont parties dans l'atmosphère. Donc diminuer un peu la force de gravitation aurait des conséquences dramatiques sur l'atmosphère. Mais en même temps, vous allez commencer à geler. Parce qu'en diminuant la force de gravitation, la Terre va aller graviter plus loin que du Soleil. La température va chuter et vous allez vous retrouver dans des univers complètement glacés dans lesquels plus aucune réaction ou très peu de réactions qui occupent notre corps et qui font que nous existions se passent. Vous auriez peut-être encore quelques formes de vie, puisque vous avez des bactéries qui résistent, il y en a plein en Antarctique, très facilement, mais une vie évoluée comme nous, ce serait beaucoup plus difficile à des températures extrêmement basses.